sido para nosotros. Je vous invite à lire avec moi un premier passage dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apporteront la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises, rejette les propos méchants, regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Un deuxième passage, nous le lisons au psaume 139. À partir du début de ce psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Et à la fin de ce psaume, les deux derniers versets, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Ce matin, nous allons ensemble nous livrer à une consultation de cardiologie biblique. Vous l'avez compris, je pense, d'après les textes que nous avons lu. Dieu connaît notre cœur, c'est-à-dire notre être intérieur, notre réalité la plus profonde. Nos proches, nos amis, nos frères et sœurs, nos compagnons connaissent, par ce que nous exprimons, par nos paroles et nos actes, quelque chose de ce que nous sommes. pas tout et pas exactement. Nous connaissons-nous nous-mêmes? La plupart connaissent la devise de Socrate. Connais-toi toi-même. La parole de Dieu va plus loin. Il ne s'agit pas seulement de bien connaître son cœur, il s'agit plus profondément encore de veiller sur son cœur. Veille attentivement sur ton cœur plus que sur toute autre chose, avons-nous lu dans les Proverbes. Car de lui, du cœur, viennent les sources mêmes de la vie. Dieu nous propose donc non seulement une connaissance, mais une action sur notre cœur. Garde-toi. Garde-toi, dit Dieu, de façon réitérée et peut-être d'une façon particulière dans certains textes que nous trouvons dans le livre du Deutéronome, où Dieu invite son peuple à une attention particulière sur son cœur, sur le cœur de chacun, sur ce qu'il exprime et sur ce qu'il contient. Et ça se traduit souvent par des mises en garde, des observations du style « garde-toi de dire, de faire des choses qui viennent bien sûr de ton cœur ». Garde-toi, quelques exemples, garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses ». C'est un avertissement de Dieu au peuple à la veille de son entrée dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Et comme ils vont entrer dans ce pays où coule le lait et le miel et que Dieu a promis de leur donner, Dieu prévient que lorsqu'ils auront, après le temps d'épreuve du désert, un temps où ils pourront savourer les richesses de la terre promise, garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. » Un peu plus loin, chapitre 9 du Deutéronome. « Lorsque l'Éternel ton Dieu aura chassé les peuples du pays, garde-toi de dire en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Non, c'est à cause de la méchanceté et de la perversité de ces nations qu'il va les chasser devant toi. Ce n'est pas vraiment parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. C'est parce que ces nations sont perverses. » Et au chapitre suivant, encore au chapitre 10. « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ? Simplement, que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Opérez donc une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Vous ne roidirez plus votre cou. » Et positivement, gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être. Garde-toi de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines et de te dire, ça c'est à propos du soutien des pauvres en Israël, c'est bientôt la 7e année de la remise des dettes et pour cette raison de regarder ton compatriote pauvre d'un mauvais œil sans rien lui donner. Voilà une série d'exhortations et de préceptes que que nous lisons dans l'Ancien Testament. C'est que le cœur humain, parce qu'il est le cœur d'être pécheur, manifeste plusieurs problèmes dans sa consistance et dans son fonctionnement. Il y a bien sûr sa versatilité, ses changements. Nous en avons abondamment entendu parler récemment par notre pasteur Pierre Marques, qui a commenté ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte et comment le peuple a changé de sentiment à l'égard de Dieu et à l'égard de la délivrance que Dieu lui avait accordée. Caractère changeant, donc, du cœur naturel. Il y a un mot qui est encore un peu plus fort que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Voilà ce que nous lisons dans le prophète Jérémie. Et il est difficile à connaître. Comment connaître notre cœur et comment agir sur lui? Certains peuvent se dire, mais à quoi ça sert? Allons-y, vivons, avançons, faisons, et n'allons pas nous tourmenter dans trop de considérations auto-centrées. Agissons et nous verrons bien. Positivons. Nous voulons plutôt écouter ce que Dieu nous dit à ce propos. Dieu connaît notre cœur et sa parole juge notre cœur. Dans le dialogue célèbre entre le prophète Samuel et Dieu et le roi Saül, au moment où Dieu a décidé d'écarter Saül et de choisir David, nous lisons « L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est que Dieu voulait choisir quelqu'un d'autre pour remplacer Saül, et le premier que Samuel a vu apparaître, c'était un grand costaud, et il s'est dit en lui-même, dans son cœur, « C'est certainement celui-là que l'Éternel a choisi pour diriger Israël. » Et Dieu lui a dit « Non. » L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce sera David, celui qu'on avait oublié de faire venir. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Alors là, nous avons beaucoup de textes qui emploient cette expression. Et nous avons vu ce qu'en dit le psalmiste : Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Avant que la parole ne sorte de mes lèvres, déjà, ô Éternel, tu la connais. La parole de Dieu est un miroir qui nous révèle notre réalité intérieure. Et puis nous avons ce texte bien connu, qui est à la fois très fort et à certains égards un peu terrible. Nous le lisons dans la lettre aux Hébreux. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons prendre en compte en effet cette réalité. Nous vivons sans rien pouvoir cacher aux yeux de Dieu. Dieu nous fait connaître la réalité de notre cœur. Nous ne pouvons plus faire comme si nous l'ignorions. Connaître notre cœur, pourquoi ? Et comment ? Première raison, bien sûr, nous l'avons lu, du cœur viennent les sources de la vie. C'est en lui que s'engendrent les pensées et s'initient les actions, bonnes ou mauvaises. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Une fois, et nous venons là à des considérations du Nouveau Testament, Jésus, dans ses débats avec les pharisiens, s'est entendu reproché par les pharisiens que ses disciples mangeaient leur repas sans se laver les mains. Et Jésus leur a dit, hypocrite, ce n'est pas de ne pas se laver les mains qui provoque la souillure profonde de l'être humain. C'est ce qui sort, les paroles qui sortent de sa bouche. Et c'est là que Jésus énumère aussi, comme nous le faisons dans l'Ancien Testament, les mauvaises pensées qui engendrent des mauvaises paroles, les mauvais comportements. Et tout cela vient du cœur. Nous devons connaître la réalité, parce que c'est du cœur que tout vient. Il y a des raisons négatives et positives pour ne pas vivre dans l'illusion et dans l'erreur sur nous-mêmes. L'illusion du malade qui s'ignore et ne peut pas par conséquent être soigné ni guéri. L'illusion qui consiste à paraître ce qu'on n'est pas, à tromper avec toutes les conséquences que cela entraîne, manque de confiance, actions et réactions en fonction des apparences, toutes les relations humaines sont faussées à partir de là. C'est pour éviter aussi de ne pas nous comprendre nous-mêmes dans notre propre fonctionnement, et nous avons un texte qui est éclairant à ce sujet. C'est lorsque l'apôtre Paul considère ses contradictions internes. Dans Romains 7, vous connaissez ce texte. « Je fais ce que je ne veux pas, et je ne fais pas ce que je veux. » Remarquons que toutes les exhortations à s'examiner soi-même, à sonder et à connaître les sentiments de notre cœur, nous les trouvons au moment où nos actions se déroulent envers notre prochain et qu'elles posent des problèmes de cohérence. Aimer en parole ou en acte et en acte. Est-ce que les actes convergent avec les paroles ou est-ce que les actes divergent d'avec les paroles? Une petite citation, cette fois, non pas de la Bible, mais de Goethe. Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation? Jamais. Mais bien par l'action. Essaye de faire ton devoir et tu sauras tout de suite ce que tu vaux. En effet, comment se connaître quand notre regard est faussé? Dans un des textes du début de l'Apocalypse, lorsqu'il s'agit d'une lettre aux églises que le Seigneur leur envoie pour qu'elles se connaissent elles-mêmes dans leur fonctionnement. Et dans une des églises, nous lisons ceci, « Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Nous sommes naturellement indulgents pour nous-mêmes, trouvant toujours des justifications ou des excuses à nos pensées, à nos sentiments, à nos paroles, à nos actes, notamment par rapport aux autres. Lorsque, pour revenir à Saül, il a gravement désobéi à l'ordre de Dieu, il vient vers Samuel et lui dit « J'ai obéi à tout ce que l'Éternel m'a demandé. » Et Samuel lui dit « Qu'est-ce que j'entends là, ce bêlement de brebis et d'animaux ?» Ah, c'est pas moi, c'est le peuple qui les a amenés pour offrir des sacrifices à ton Dieu. Samuel a dit à Saül, arrête, et je te révélerai ce que tu es en réalité. Maintenant, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu le roi d'Israël. Et maintenant, tu t'égares gravement et tu veux passer pour quelqu'un qui a obéi à Dieu. Oui, nous sommes la plupart du temps indulgents sur nous-mêmes. Il nous arrive aussi l'inverse. Il peut arriver que nous soyons tellement sévères à notre égard que nous nous condamnons et nous nous tapons sur la tête et nous nous frappons la poitrine. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais nous avons la révélation de Dieu sur nous. Et là, avec cette révélation de Dieu sur nous, nous avons toutes les réponses dont nous avons besoin. Nous avons le diagnostic et le remède. Nous sommes des créatures de Dieu faites par lui à son image. Et au départ, il nous est dit que tout ce que Dieu avait fait était bon, et même très bon. Mais nous sommes pécheurs, mauvais et méchants par nature. Et les pensées de notre cœur ont tendance à se porter à Dieu. Doublement au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous sommes au bénéfice de ce qu'on appelle la grâce commune, c'est-à-dire le fait que nous avons été créés par Dieu à son image et que malgré le péché, il reste en nous quelque chose de l'image de Dieu. C'est la grâce commune. Et puis il y a la grâce spécifique de tout ce plan que Dieu a mis en œuvre, qu'il a préparé dans l'Ancien Testament et qu'il a réalisé avec la venue de Jésus-Christ, pour que par grâce, nous puissions être sauvés. La grâce pour le salut. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Nous pouvons donc et nous devons nous connaître par ce que Dieu nous révèle. Et la parole de Dieu nous est aussi adressée pour cela. Il nous invite à nous examiner nous-mêmes. Lorsque l'apôtre Paul fait des observations sur la façon dont les chrétiens de Corinthe pratiquent la Sainte Cène, il relève des choses éminemment contestables. Et il leur dit de s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont bien dans les dispositions de cœur qui conviennent pour discerner au moment où ils partagent le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus-Christ. Et il leur dit, si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement de Dieu. Et dans la deuxième aux Corinthiens, toujours le même apôtre Paul dit aux chrétiens, faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous et en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à la confusion et à l'échec. Cette connaissance du cœur, de notre cœur à chacun de nous, fait partie de la pédagogie de Dieu pour nous conduire à la foi, au salut et à la sainteté. Pour retrouver, pour ceux qui l'auraient perdu, leur conscience. Que faire donc de cette connaissance de notre cœur? D'abord, ce qu'il ne faut pas faire, et je reviens sur ce que j'évoquais il y a un instant. Je parlais d'un côté de l'indulgence que nous avons à l'égard de notre cœur et je disais que ça peut être l'inverse. La pédagogie de Dieu qui nous invite à nous examiner nous-mêmes n'est pas une pédagogie pour nous conduire à l'angoisse permanente. Je répète, la pédagogie de Dieu qui nous invite à nous examiner nous-mêmes n'est pas une pédagogie pour nous conduire à l'angoisse permanente, à l'auto-examen renouvelé à chaque pas, en nous demandant sans cesse si nous avons bien fait, si nous sommes assez purs, si nous sommes toujours dans la droite ligne, dans la volonté de Dieu et sous son approbation. Il existe ce type, ce que j'appelle carrément une pathologie. Il existe ce type de pathologie chez certains chrétiens. L'inversion de l'indulgence naturelle en auto-jugement, toujours sévère et soupçonneux. Ne va-t-on pas soupçonner de quelques perversions même les bons sentiments, les vertus et les qualités? Il y a des écrits qui datent maintenant de pas mal de temps d'un chrétien américain qui s'appelle Watchman Nee, qui insistait beaucoup sur cette perversion totale de l'être humain pécheur et qui occultait complètement l'autre aspect qui est que même les gens qui ne sont pas chrétiens peuvent faire du bien. La condamnation systématique parce que je suis pécheur par nature et que rien de bon ne peut venir de moi, je dis que cela procure une pathologie d'auto-accusation, par excès, par scrupulite aiguë, et même pire. C'est l'oubli du sens de la grâce et de l'amour. Et c'est un retour sous la loi. Mais nous avons été libérés de la loi. C'est un problème qu'on rencontre aussi dans le Nouveau Testament et qui est débattu autour de l'idée de faut-il ou non, ou peut-on ou non, manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je ne vais pas entamer ce sujet qui nous amènerait loin, mais je voudrais juste en retenir un aspect. L'apôtre Paul souligne le fait que chacun a une histoire et cette histoire module ou modèle en partie sa conscience. Lorsqu'il débat du sujet des viandes sacrifiées aux idoles, il dit « les idoles ne sont rien, il n'y a pas d'idoles ». Donc une viande sacrifiée aux idoles, c'est une viande comme les autres. Mais le problème, c'est que certains, après avoir eu une longue fréquentation des idoles, pensent que lorsqu'il y a une viande qui a été sacrifiée aux idoles, c'est quelque chose de réel, que ces viandes ont vraiment été sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est perturbée. Essouillé. Et l'apôtre développe cela en disant, si pour, dans ce contexte-là, si en sachant que je mange une viande sacrifiée aux idoles, moi qui ai la liberté de le faire, je blesse la conscience d'un frère qui est à côté de moi, je m'abstiendrai plutôt de manger de cette viande-là. Parce que sinon, je ne marche plus selon l'amour. Voilà un exemple de ce que je viens d'essayer de développer en quelques mots. Mais la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et je voudrais arriver à ma conclusion. Que faire positivement de cette pédagogie de Dieu qui nous révèle la vérité de notre cœur? Faire comme le psalmiste, la désirer et l'accepter. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une attitude d'honnêteté devant Dieu. C'est celle du psalmiste qui se repent. Lorsque je me suis tue, mes os se consumaient. Je t'ai avoué mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. Et tu as enlevé la peine de mon péché. Le chrétien est libéré des sentiments de culpabilité qui l'entraînent à se morfondre sans arrêt. J'apporte mon cœur à l'Éternel. Je lui ouvre mon cœur, je lui confesse mon péché. Tu as enlevé la peine de mon péché. Nous pouvons tirer donc les conséquences de cette action de Dieu qui nous révèle notre cœur. Lorsque nous avons de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, lorsqu'elles surviennent, et ça nous arrive d'en avoir, lorsque nous les découvrons en nous, reconnaissons-les et apportons-les simplement au Seigneur, en lui demandant de nous les pardonner et en lui demandant de nous aider à en être délivrés. Oui, les apporter à Dieu dans la repentance et dans la confiance, comme l'a fait David après son péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et lorsque nous avons été pardonnés, vivons notre réalité dans l'amour, dans la confiance et dans la liberté. Et nous avons de très beaux textes de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean qui, même par rapport au jugement de leur propre conscience, finissent par dire « Mais je me livre finalement à Dieu parce que je sais que je peux me tromper dans un sens comme dans l'autre. Mais si je fais confiance au Seigneur, je suis sur le bon terrain et sur la bonne voie. » Nous avons un texte dans 1 Corinthiens que j'aimerais maintenant vous lire. 1 Corinthiens au chapitre 10, versets 27 à 30. C'est le texte dont je vous ai cité tout à l'heure un extrait de mémoire. C'est à propos de ces viandes sacrifiées aux idoles. Si quelqu'un vous dit « c'est de la viande sacrifiée, n'en mangez pas » à cause de celui qui vous a averti et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de la sienne. Car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience? Si je prends de la nourriture en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce de me comporter. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Professons la vérité dans l'amour. Soyons honnêtes avec Dieu et avec nous-mêmes. Reconnaissons notre péché lorsqu'il est réel et repentons-nous-en. Cultivons l'amour vrai en sentiment, en parole et en acte pour Dieu et pour notre prochain et vivons la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Jésus-Christ. Nous allons dans un instant communier dans le souvenir de cet amour total qui est allé jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est là que nous mesurons de quel amour nous avons été aimés, le cœur même de Jésus. Pour nous préparer à ce partage de la Sainte Cène, je vous invite à chanter « Dans ton amour, divin Sauveur, toi, les délices de ton Père ». Chantons les quatre strophes de ce cantique. Levons-nous.